Alors après une brève et lointaine déjà introduction sur la mort, en fait c'est pas très compliqué, il faut juste se souvenir que nous devons tous mourir, c'est ça le lot de tout homme. Et bien maintenant, il nous faut nous demander ce qui se passe à la mort, puisque nous avons établi que nous allons tous mourir. Et bien à la mort, dit l'Église, tout simplement, il y a un jugement individuel, un jugement particulier. Donc nous allons nous intéresser au sort particulier de mon âme au jour de ma mort. Alors, on aime à citer la phrase de Saint Jean de la Croix, et on a raison, « Au soir de votre vie, vous serez examiné sur l'amour. » Alors, je me permets respectueusement de vous faire remarquer qu'il y a deux choses importantes. Il y a bien sûr le mot « amour » qui emporte en général la conviction de tous, mais il y a le mot de « jugement ». Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Et oui, ce monde sensible ne sera plus pour nous. Nous nous en irons de celui-là, le monde matériel ne sera plus. Alors nous allons entrer uniquement dans le monde suprasensible, le monde naturel. Aussi, rien de plus naturel qu'on fasse un examen de notre âme, un examen moral, un examen spirituel, un examen de notre poids spirituel. C'est la tradition de l'Église qui représente Saint-Michel Archange avec une balance et le poids, n'est-ce pas, de l'âme. Au jour où nous sommes entrés dans le monde, à notre naissance, eh bien, la première chose qu'on a faite, après s'être assuré que nous puissions crier, je crois, on s'est assuré du poids que nous faisions. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant, c'est l'usage, maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais sur les faire-part, on marque le poids du bébé, sa taille. Bon, pourquoi pas, bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, on marque le poids. Eh bien, c'est la même chose, on fera ça au jour de notre mort, on va regarder le poids de la grâce en nous. Et il y en a qui, peut-être, qui pèseront pas lourd. Ben oui. Alors, il y aura des beaux bébés, et puis donc, voilà, ceux qui pèseront lourd, et puis il y en aura qui pèseront pas lourd. Alors, évidemment, pour éviter cette idée du jugement, mais je voudrais l'éliminer tout de suite, d'aucuns se sont un peu penchés sur ce qu'on appelle la métempsychose, c'est-à-dire le transvasement de l'âme, c'est-à-dire que à ma mort, oui, je sais qu'il y a un principe spirituel en moi, alors ben, il ira ailleurs, il ira dans un autre vase. Voilà. Alors, aujourd'hui, on n'emploie plus tellement le terme de métempsychose, qui est le terme grec, de transvasement de l'âme. Vous connaissez plus communément le terme de réincarnation, qui est plutôt celui que l'on prend au bouddhisme ou à l'hindouisme. C'est l'idée que, après cette vie, on va recommencer une autre. Et alors, c'est un mauvais emprunt que l'on fait à l'hindouisme et même au bouddhisme. Parce que dans l'hindouisme, quand on se réincarne, c'est pas du tout une chance. Ici, on voit ça comme une chance en se disant « il n'y aura pas de jugement, chouette, on va de nouveau se réincarner. » Mais non, c'est pas du tout une chance dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, c'est une malédiction. C'est au contraire un jugement terrible. C'est que si vous n'avez pas réussi à sortir du cycle infernal des réincarnations, c'est pas moi qui le dis, là, c'est l'hindouisme, eh bien, votre punition, c'est d'être réincarné. Jusqu'à ce que vous expiez tous vos péchés et que vous puissiez enfin sortir des réincarnations. Parce que dans le bouddhisme, la chair est un malheur absolu, et donc cette incarnation, plus on est incarné, plus on est particulier, et plus c'est la catastrophe. Et le but, c'est de sortir de tout ça, de ne plus exister dans un corps, de ne plus exister particulièrement, et d'être dans le grand tout. Ce n'est pas du tout ce que nous disons. Nous disons, d'une part, que ce n'est pas un malheur que cette chair, c'est le moyen qui nous est donné pour voir Dieu, c'est le transport qui nous est donné pour arriver au soir de notre vie, c'est le moyen qui nous est donné pour aimer. Donc ce n'est pas du tout une malédiction, c'est une bénédiction que nous soyons incarnés. Nous disons le contraire. C'est une bénédiction, mais évidemment une bénédiction qui nous donne des moyens et donc une responsabilité. Et cette vie qui est une bénédiction nous sera donnée une fois seulement. L'Épître aux Hébreux le dit clairement au chapitre 9, verset 27. L'homme ne meurt qu'une fois et ensuite il y a un jugement. Voilà. La mort de l'homme, elle est la conséquence du péché. Alors vous allez me dire, mais dans la nature, toute chose meurt. Oui, les choses matérielles n'ont jamais été faites pour durer éternellement. Les choses matérielles, elles finissent par mourir, par s'épuiser. C'est le principe de l'épuisement de l'énergie, le principe de l'entropie. Eh bien, tout ça, si vous laissez aller n'importe quelle chose humaine, enfin, je veux dire, n'importe quelle chose matérielle, elle va à sa perte. Et notre corps aussi n'est pas fait pour durer éternellement. Je sais bien qu'on essaye de repousser les limites sans cesse, mais on voit bien que de toute façon, au bout d'un moment, il y a toujours une limite. Quoi. Quand on repousse les limites, c'est qu'il y a toujours une limite. Voilà. Eh bien, oui, effectivement, la mort est quelque chose de naturel, mais l'état de justice primitive dans laquelle Dieu avait voulu l'homme, l'exemptait du péché, c'est-à-dire que déjà, c'était une grâce que l'homme ne devait pas mourir. Mais voilà, le péché originel, puis nos péchés, d'abord le péché originel, a fait entrer la mort dans le monde. Et ce n'est pas le but de notre vie que la mort. Bien sûr, nous savons que ça a un moyen terme, il va falloir y passer, mais ce n'est pas le but, car Dieu nous a rachetés de la mort spirituelle, que nous avions, il nous avait déjà créé en nous rachetant, en nous exemptant de la mort éternelle, la mort matérielle, naturelle, mais nous l'avons réintroduite par le péché, une mort spirituelle qui du coup fait mourir le corps aussi, parce qu'il y a une répercussion de l'âme au corps. Eh bien, le Seigneur est venu pour nous sauver de cette mort-là aussi. Voilà pourquoi on dit que le Christ est notre libérateur et notre sauveur. Parce que le Christ est venu pour nous sauver de la mort éternelle et de la mort tout court, c'est-à-dire qu'une fois passée la mort, nous ne mourrons plus. Nous allons vivre éternellement avec le Christ. L'Épître aux Corinthiens, saint Paul le dit dans la première Épître aux Corinthiens, chapitre 15, « Ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité. Nous sommes faits pour la vie éternelle. » La mort, ça sera pour nous quelque chose, quand même un bouleversement, peut-être aussi grand que l'a été notre naissance, peut-être aussi effrayant. Vous n'ayez pas peur d'avoir peur de la mort. C'est normal. Pas parce qu'on a la foi, bien sûr. Alors la foi doit tout de même nous atténuer cette peur de la mort, la faire voir. Mais ça ne veut pas dire que toute peur naturelle va mourir. Vous n'êtes pas des mauvais chrétiens parce que vous êtes un peu angoissé devant la mort. La mort sera donc un bouleversement, et surtout pour nous, elle sera la fin du temps, et notamment la fin du temps des mérites et du temps des démérites. Bref, le temps va se terminer. C'est ça le terme. C'est qu'il n'y aura plus de temps. Ça s'appelle l'éternité. L'éternité, c'est l'absence de temps. Et donc, le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps pour la conversion. C'est le temps pour changer de vie. C'est même pour ça qu'on nous a donné du temps. Donne-moi 5 minutes. C'est toujours ce qu'on donne, quand quelqu'un vous demande, donne-moi un petit peu de temps et je le ferai. Voilà ce que le Seigneur a fait avec nous. Je te donne un peu de temps. Vas-y, fais le bien. Vis de l'amour. Pour qu'au soir de ta vie, tu puisses être examiné sur l'amour, je te donne le temps de le faire. Alors les insensés disent demain je me convertirai. Mais insensé que tu es, demain ne viendra peut-être pas. La mort viendra au moment où on ne s'y attend pas. Et alors on ne sera pas prêt pour entrer dans l'éternité. Il faut donc nous tenir prêts à tout instant à nous présenter devant Dieu, à voir notre Créateur, à réaliser le terme de notre vie. On n'est pas spécialement pressé, c'est pas ce dont Dieu a disposé, c'est le meilleur temps. Il n'appartient à personne de connaître l'heure et le temps, seulement au Père. Donc voilà, on vit le temps tranquillement, dans la joie d'avoir du temps pour. Si les gens pensaient plus souvent, je vous l'ai dit déjà, à la mort, ils feraient beaucoup moins de bêtises, parce que ce temps va finir. Voilà. Donc, le temps pour se convertir, c'est maintenant. Maintenant, on a le temps. Voilà. Et donc, ma mort sera l'entrée dans l'éternité, Et alors immédiatement, dit l'Église, hein, immédiatement à ma mort, mon âme sera jugée par Dieu dans un jugement particulier et irrévocable. Irrévocable puisque parfaitement juste et éternel. Lisez la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Pour que chacun retrouve ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. La vie éternelle, hein, c'est pas une deuxième vie, c'est pas une deuxième chance, c'est pas un deuxième tirage. La vie éternelle, elle est déjà commencée. Et je vais vivre, si ma vie, si en moi, hein, il y a déjà la vie éternelle, bah, c'est cette vie éternelle qui va vivre éternellement. Donc, je recommence pas tout à zéro. Hein, j'ai été créé un jour et je vais vivre éternellement. La mort sera le changement d'un état. Et cet état sera irrévocable puisque ça sera l'éternité. Il n'y aura plus le temps de changer. Voyez, dans Saint Luc, au chapitre 16, hein, cette parabole du mauvais riche et de Lazare qui meurt de faim à sa porte. Au soir de... immédiatement, l'un est emporté immédiatement, dit Saint Luc, dans le sein d'Abraham. C'est le pauvre Lazare. Et l'autre est emporté immédiatement en enfer, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et alors, il se rend bien compte que c'est pas bon. Mais, dit l'Écriture, un abîme a été mis entre vous et nous pour que vous ne puissiez pas venir. Il n'est plus temps. N'écoutez pas les vendeurs de balivernes, hein, qui vous disent « Ah, alors, quoi, en Dieu, une fois qu'on sera plongé en Dieu, ben, on se convertira à ce moment-là. » Mais Dieu n'est pas insensé, il nous a donné toute notre vie pour nous convertir. Donc c'est maintenant la conversion. C'est pas un hypothétique temps où il y aura plus de temps. Moi, ça me dépasse. Et ce jugement aura lieu tout de suite. Écoutez ce que dit le Christ au bon larron sur la croix, qui est un criminel, hein, mais qui se convertit, qui regarde le Seigneur et qui dit bah, « Lui, il n'a rien fait de mal. Il est le juste. Nous, c'est juste. Nous sommes... Pour nous, c'est juste. » On ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais crucifié, il dit « Pour nous, pour moi, c'est juste. » Alors, c'est quand même pas un enfant de cœur. Hein. Le Seigneur lui dit « Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. » Pour moi, hein, le moment de ma mort et le moment de mon jugement, eh ben, c'est complètement homogène. Hein, c'est le même moment. Et puis, c'est personnel. Quelle joie, hein, de savoir que je ne vais pas être jugé en groupe. Alors, il y a le groupe qui est là, bon, allez, celui-là, ça va, on laisse passer ce petit groupe-là, on laisse pas... Non ! Un jugement personnel, individuel. On va se pencher sur mon cas. Je vais pouvoir me présenter devant Dieu. Vous voyez ? C'est pas les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, les petits, les grands, les vieux, les jeunes, les sportifs, les je sais pas quoi. Enfin, vous pouvez faire tous les gens, toutes les différences qu'il y a dans le monde. Hein. Non, c'est pas des... C'est moi, personnellement. Quelle joie! Quelle joie de savoir qu'il y a un jugement individuel. Que vous voyez, c'est pas une espèce de grand tout, on passe le balai et puis bon, on en prend, on en jette, comme dans un sac, vous voyez? Si on en perd un peu, c'est pas grave. Non, chaque âme a du prix. Le Seigneur est mort pour chacun de nous. Vous voyez, ça c'est une bonne nouvelle. Ah, parce que les gens ont toujours peur. Alors, un jugement individuel. Ah non, je voudrais me cacher derrière mon voisin. Mais non, c'est une chance. On va te juger et avec justice. C'est le Seigneur qui juge. Il va juger avec amour parce qu'il est lui-même amour. Nous n'avons qu'à apporter ce que nous avons en nous de bon. J'espère qu'il y a quelque chose de bon. Parce que s'il n'y a rien, il n'y a rien. Hein. S'il n'y a rien, c'est ma liberté, justement. Enfin, on en parlera, hein, du sort des damnés et du sort des élus, mais voilà. C'est le moment de la reddition des comptes. On va rendre compte. On va rendre compte des talents qui nous ont été donnés. des talents qui ont été mis en nous pour que nous fassions le bien. Vous voyez, il faut s'en persuader, hein, et il faut que vous le disiez aux oreilles de vos amis pour leur rendre service. Hein. C'est pas pour leur faire peur, c'est pour les sauver. Fais le bien, maintenant, tout de suite. Va te réconcilier, maintenant, pas demain. Arrête de maugréer, maintenant, pas demain. Vis de la vie éternelle, maintenant et demain. Dans le prophète Daniel, on lit que le roi Balthazar, le fils de Nabuchodonosor, donnait un grand festin au prince de son royaume. Il avait fait apporter les vases sacrés du temple de Jérusalem pour y boire. Sacrilège. Alors, apparurent des doigts de mains humaines qui écrivaient sur la chaux de la muraille du palais royal. Il écrivait. Alors le roi se changea de couleur, et ses pensées se troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et les genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Bref, ils avaient peur. Alors, comme ils ne comprenaient pas, ils font appeler Daniel, qui va prophétiser. Il est marqué, voilà ce qui est marqué, Mané, Tessel, Phares. Mané veut dire mesurer. Dieu a mesuré ton règne et il y a mis fin. Tessel, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé trop léger. Phares, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Eh bien voilà, pour nous, c'est un avertissement. Mané, notre vie sera mesurée, elle est déjà mesurée. Elle a un terme, notre vie humaine. Ma vie éternelle, elle n'a pas de terme. Elle a une fin, c'est pas la même chose, elle a un but. Elle n'a pas de terme. Mais ma vie humaine, elle a un terme. C'est mesuré. J'espère que j'aurai le temps de faire le bien que je veux. Ma vie sera pesée, j'espère bien, n'être pas trouvé trop léger, comme le roi Balthazar. Débauché, sacrilège. J'espère n'être pas divisé, comme le dit Daniel un peu plus loin, en défendant Suzanne, accusée par des vieillards. L'ange de Dieu, au vieillard inique, l'ange de Dieu le coupera par le milieu. Daniel 13, 55. Et j'espère bien que le Seigneur me gardera tout entier. Alors comment ça va se passer? Eh bien, malheureusement, vous savez bien, il y a un accusateur. Dans tout procès, dans tout jugement, il y a un accusateur. Et cet accusateur, on connaît son nom, c'est le diable. L'accusateur de nos frères, dit l'Apocalypse, chapitre 12, qui va, ce pervers, rappeler tous nos péchés. Mais oui, c'est le même qui nous pousse à les commettre, c'est le même qui s'en réjouit, qui nous incite, c'est le même qui nous les rappellera. Voilà, voilà ton enfant, voilà ce qu'il a commis, l'accusateur. Alors, nous avons des défenseurs auprès du Père. Nous avons des défenseurs et pour la sentence éternelle, eh bien, il faut nous y livrer tout de suite à ces défenseurs. Ces défenseurs, c'est la Vierge Marie, refuge des pécheurs. La Vierge Marie représentée, peut-être avez-vous déjà vu, c'est représentée de la Vierge Marie avec un grand manteau. Refuge, refuge des pécheurs. Et donc, livrez-vous à elle. Livrez-vous à la Vierge Marie qui peut vous accueillir. Notre ange gardien qui témoignera pour nous. Il n'inventera rien. Toute justice. Mais il rappellera tous les bons actes que nous avons commis, le mal que nous n'avons pas fait. Celui qui ramène quelqu'un dans le droit chemin, dit l'Écriture, couvrira une multitude de péchés. Vous voyez, c'est réjouissant pour l'apostolat, pour annoncer le règne de Dieu et le bien. Notre saint patron, certainement, Tous les saints qu'on nous aurons fréquentés durant notre vie. C'est eux nos défenseurs. Ils n'oublieront aucune de nos bonnes actions. Voilà comment va se dérouler, tout simplement, finalement, ce jugement en l'espace d'un instant. Un instant de raison, nous verrons Dieu face à face et nous verrons en lui tel que nous sommes. J'espère qu'il ne faudra pas de trop grosses lunettes pour nous voir. Hein, c'est-à-dire qu'on pourra y être quand même, quoi. Voilà ce jugement qui n'est pas, comme je vous l'ai dit, un sujet de désolation. Au contraire, il est un sujet de joie. De savoir qu'enfin, je vais être jugé personnellement, moi, avec mes défenseurs, que je vais être jugé en toute justice, mais plus encore. Parce que si on m'applique une justice stricte, ça risque de n'être pas très réjouissant. Plus encore, je serai jugé par l'amour lui-même, par Dieu qui est amour et qui me donnera la récompense. N'ayez pas peur de désirer cette récompense. N'ayez pas peur de vouloir que le bien vive en vous. C'est dans notre marche vers Noël l'attente d'un cadeau qui nous est déjà fait. Nous savons que le Christ, comme il est marqué sur ce mur, il est déjà venu dans ce monde. Il vient et il reviendra dans sa gloire. Eh bien, le Christ qui vient, c'est maintenant. Il vient en chacun de nous à chaque fois que nous faisons le bien. À chaque fois qu'un acte d'amour, de charité, s'installe en nous, eh bien, le Christ advient. C'est-à-dire que nous existons un peu plus. Chaque acte bon alourdit notre âme d'une pesanteur de gloire. Profitons de ce temps pour remplir nos poches. Tout est à notre disposition. Remplir nos poches d'actes bons, de désirs bons, de prières qui vont faire de moi un roi mage, pas un pseudo Balthazar, mais un roi chargé de cadeaux pour le roi du ciel, des cadeaux qu'il m'a donnés, le bien qu'il m'a donné de faire. Eh bien, espérons ce jugement avec confiance, lui, le juste juge, qui connaît notre cœur et qui nous aime. Amen.